Imagine que tu possèdes un billet de loterie gagnant.
D'accord, je visualise très bien.
Ouais, le genre de billet qui efface absolument toutes les dettes de toute une vie, genre d'un seul coup.
Le rêve, quoi.
C'est ça. Tu l'as dans la main, il est 100% valide, l'argent est à toi. Mais tu choisis de continuer à dormir dans la rue, dans le froid. Tout simplement parce que tu refuses d'aller l'encaisser.
C'est complètement absurde, on est d'accord, personne ne ferait ça.
Ben en fait, si, c'est très exactement le paradoxe psychologique et même spirituel qu'on retrouve au cœur d'un des textes anciens les plus puissants de l'histoire humaine.
Et c'est vraiment ce qui rend l'étude de ces textes si déroutante, parce qu'on touche à la complexité de la nature humaine face à l'idée même de la grâce, en fait. Une chose qui nous est souvent, curieusement, assez insupportable.
Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, notre exploration se penche sur les recherches et la grosse analyse théologique du docteur John Oswalt. Il a vraiment décortiqué les chapitres 54 et 55 du livre d'Ésaïe.
Un travail monumental, oui.
Totalement. Et la mission de cette analyse aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre un basculement qui est radical. D'habitude, avec les textes prophétiques, on a l'impression d'être installé dans une immense salle d'attente.
C'est exactement ça, on attend.
Ouais, on lit des promesses, on espère un événement lointain, et les chapitres précédents d'Ésaïe, ils expliquaient en long et en large comment le pardon allait être possible grâce à une figure un peu mystérieuse qu'ils appellent le serviteur. Mais soudainement, au chapitre 54, bah, la salle d'attente disparaît complètement.
Le changement de ton est effectivement brutal. Il faut vraiment s'imaginer l'atmosphère de cette époque révolue, se plonger mentalement dans le monde des anciens Israélites. Le texte ne se contente plus de poser des bases théoriques, là.
C'est fini la théorie.
C'est ça, c'est une porte qui s'ouvre à la volée, c'est une invitation active, hyper pressante. Le message devient littéralement le salut est prêt, maintenant agissez.
Mais pour vraiment mesurer l'impact de ce agissez, il faut qu'on parle du niveau de désespoir de ceux qui reçoivent ce message à la base. On parle des Israélites qui sont en exil à Babylone, et le chapitre 54, il commence pas avec des trompettes de victoire. Il s'ouvre sur une image super glaçante, celle d'une veuve stérile.
Ouais.
Pourquoi choisir une métaphore aussi sombre, tu vois, pour annoncer une bonne nouvelle? Enfin,
Ou prendre soin d'elle dans ses vieux jours, elle est condamnée à l'effacement total.
c'est terrible.
Et c'était très exactement la terreur existentielle des exilés à Babylone. Ils n'avaient pas juste perdu une guerre, ils avaient la certitude absolue d'être rayés de l'histoire, de perdre leur identité culturelle et religieuse à tout jamais.
Et ça m'amène à un concept que je trouve fascinant dans l'Ancien Testament, c'est le concept de la honte.
Ah oui, très important.
Parce que c'est pas juste genre j'ai fait une gaffe et je rougis, hein. C'est presque comme, bah, disons, la meilleure chaise du monde. Imagine que tu t'assois dans une chaise antique, super magnifique, en laquelle ta famille a une confiance aveugle depuis des générations,
Je vois.
et boum, au moment où tu t'y attends le moins, elle se disloque et tu t'écrases par terre devant tout le monde. Bah, les exilés, leur chaise, c'était Dieu, c'était Jérusalem, c'était leur temple, tout s'est effondré. La honte, c'est cette humiliation publique, tu vois, et la perte totale de repères.
C'est une excellente façon de visualiser la chose. Ils pensaient vraiment que la chaise les avait lâchés. Et c'est précisément dans cette humiliation hyper profonde que Dieu intervient avec une promesse totalement illogique.
Genre dire à cette femme isolée qu'elle aura plein d'enfants?
C'est ça. Dire à cette femme, désolée que ses enfants seront plus nombreux que ceux d'une femme mariée. Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont le texte garantit cette impossibilité.
Comment ça?
Eh bien, il déploie cinq titres majestueux pour Dieu dans ce passage. Créateur, Seigneur des armées célestes, Époux, Rédempteur et le Saint d'Israël.
Attends, j'ai un peu de mal avec ça. Parce que d'un côté, on a des titres de puissance pure, genre créateur ou seigneur des armées, ça en jette. Mais de l'autre, des mots comme époux ou rédempteur, ça implique une vraie vulnérabilité, une obligation envers quelqu'un d'autre.
Absolument.
Pourquoi un être omnipotent, il s'encombrerait de liens de parenté? Le rédempteur, à l'époque, c'était bien le parent proche qui avait l'obligation légale de racheter les dettes de la famille, non?
Oui, c'était exactement son rôle légal. Et c'est là toute l'audace de ce texte. Si l'on relie cela au contexte plus large de la pensée antique, prends Aristote par exemple.
Aristote, le philosophe grec ancien.
Lui-même. Aristote concevait très bien l'idée d'un dieu transcendant, un premier moteur qui crée tout l'univers. Mais pour lui, ce dieu devait rester totalement distant, inaccessible.
Pour pas se salir les mains, en gros.
Exactement. S'il s'impliquait personnellement, s'il ressentait des choses pour sa création, il en serait affecté, ce qui, selon la logique grecque, détruirait sa perfection. Or, le texte d'Ésaïe prend la philosophie d'Aristote et la retourne complètement.
Ah, waouh!
Le texte affirme que la véritable puissance du transcendant réside justement dans sa capacité à choisir d'être intimement personnel. En se nommant rédempteur ou époux, il signe un contrat d'obligation. Il ne regarde pas la misère de haut, il descend dans l'arène familiale.
Mais du coup, ça nous amène à une contradiction énorme, tu trouves pas? Si ce Dieu, c'est cet époux aimant et engagé, pourquoi la chaise s'est-elle fracassée en premier lieu?
C'est la grande question, oui.
Bah oui, pourquoi il a permis que la maison soit détruite, que les gens soient déportés? Les sources parlent de colère divine, d'exil. C'est pas très réjouissant pour un soi-disant amour éternel.
Le docteur Oswalt ne contourne pas du tout ce problème dans son analyse, et le texte d'Ésaïe non plus d'ailleurs. Il y a une distinction fondamentale qui est faite ici entre une émotion passagère et une nature profonde.
D'accord.
Le texte met en contraste la colère de Dieu, qui est décrite comme durant seulement un instant, et son amour, ce que l'hébreu appelle le hesed.
Le fameux hesed, cet amour loyal et inébranlable.
C'est ça. Mais cela soulève une question hyper importante sur la raison même de cette colère. Dans ce cadre théologique particulier, la colère n'est pas du tout l'opposé de l'amour.
Ah bon?
Non, elle en est le symptôme. Dieu se met en colère parce qu'il aime. Si le peuple ne lui importait pas, s'il n'avait aucune valeur à ses yeux, Dieu observerait leur corruption et leur autodestruction avec une totale indifférence.
Ah, je vois carrément ce que tu veux dire. C'est l'idée du parent dans la rue mère.
Comment ça?
Ben, imagine, on a un petit enfant qui lâche soudainement la main de son parent et qui court au beau milieu d'une route où les voitures roulent à toute vitesse.
L'angoisse totale.
Voilà, la réaction immédiate du parent, ça va pas être de dire « doucement, chérie, ce n'est pas bien de faire ça ». Non, le parent va hurler, exploser de colère et attraper l'enfant super brusquement au risque de lui faire mal au bras.
Exactement.
C'est féroce. Mais cette fureur, bah, c'est pas de la haine. C'est vraiment l'expression la plus pure d'un amour viscéral d'un parent qui est terrifié par le danger d'autodestruction de son enfant.
C'est un mécanisme psychologique très très similaire, et pour appuyer cette idée d'amour viscéral, il faut regarder le vocabulaire original. Ce qui est fascinant ici, c'est la racine hébraïque employée pour parler de la compassion de Dieu dans ce passage.
C'est quoi?
C'est la racine RHM. Et cette racine, elle est linguistiquement liée au mot qui désigne l'utérus, les entrailles maternelles.
Vraiment? Donc on passe du grand seigneur des armées à une tendresse quasi utérine.
Carrément. Cela transcende la simple pitié intellectuelle. C'est une réaction organique, matricielle. La colère, c'était le cri pour arrêter l'enfant sur la route. Mais la nature constante de la relation, le fondement même, c'est cet amour maternel infini, ce chesed.
D'accord, d'accord. Mais bon, cet amour, il faut bien qu'il se matérialise dans la réalité de ces exilés, sinon c'est juste de belles paroles en l'air.
Bien sûr.
Le texte parle d'une sorte d'alliance de paix, comme solution. Le fameux mot « shalom ». Sauf que souvent, on réduit le shalom à un petit mot doux pour dire bonjour ou au revoir ou juste à l'absence de guerre.
Et c'est une perte de sens vraiment tragique. Le shalom biblique, il est infiniment plus complexe qu'un simple cessez-le-feu. Ce n'est pas l'idée de deux ennemis qui s'assoient de chaque côté d'une frontière glaciale juste parce qu'ils arrêtent de se tirer dessus.
C'est plus profond que ça.
Beaucoup plus. Le shalom implique une dynamique de restauration totale. L'analyse prend un exemple biblique pour illustrer le mécanisme, l'histoire de Phinéi dans le livre des Nombres, au chapitre 25.
Ah oui, avec la peste, c'est ça?
Exactement. Le peuple était en train de s'auto-détruire par la corruption, une peste ravageait le camp. Phinéi entrevient de manière, disons, très drastique. Il arrête la corruption et Dieu lui accorde une alliance de paix.
Donc le shalom?
Oui. Mais cette paix n'était pas juste l'arrêt d'un conflit armé, c'était la réparation active d'une prêtrise, la reconnexion d'un canal vital entre Dieu et le peuple.
Donc le shalom, c'est un pont qu'on reconstruit brique par brique en fait. C'est pas juste s'assurer qu'il n'y ait plus de tir sur ce pont.
C'est une super image. C'est la plénitude, le fonctionnement optimal de toute chose. Et la valeur de ce pont reconstruit, elle est décrite par Ésaïe avec des images architecturales complètement folles.
Genre quoi?
Bah, il parle de poser des fondations avec des saphirs, de fabriquer les créneaux avec des rubis. Pour des gens qui n'avaient plus rien, qui vivaient littéralement dans la poussière de l'exil, c'est une façon de leur dire « voilà votre véritable valeur à mes yeux ».
Et le but de cette architecture de pierres précieuses, selon l'analyse qu'on a lue, c'est d'être, je cite, « établi dans la justice ». Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond?
C'est une notion complexe, c'est vrai.
Parce que le mot « justice », de nos jours, ça peut vite devenir un concept moralisateur super lourd. Et ça nous plonge direct dans le grand débat historique de la Réforme, entre d'un côté Martin Luther et de l'autre John Wesley, n'est-ce pas?
C'est un débat absolument fondamental pour comprendre comment cette justice fonctionne. Martin Luther a mis le doigt sur une angoisse humaine terrible, notre incapacité chronique à atteindre la perfection.
Ouais, on n'est jamais assez bon.
C'est ça. Et pour alléger ce fardeau, il a souligné que par la grâce, l'être humain est compté comme juste. Même si nous sommes imparfaits, nous recevons le statut de juste, grâce à un autre, grâce au Christ. C'est une sorte de déclaration légale d'acquittement.
C'est là que mon analogie du billet de loterie revient, tu vois.
Vas-y, je t'écoute.
Luther, en gros, il nous dit « Réjouissez-vous, on vous a offert le billet gagnant qui annule toutes vos dettes bancaires.
Mmh. »
C'est un soulagement immense, tu n'es plus traqué par les juissiers spirituels, quoi.
Très bien vu.
Mais John Wesley, qui arrive bien plus tard dans l'histoire, il pose un regard assez différent sur la mécanique de cette grâce, non ?
Tout à fait. Wesley ne renie pas du tout l'idée d'acquittement, mais il dit que ce n'est que la moitié de l'équation. Il insiste sur le fait que nous ne sommes pas seulement comptés comme justes, mais que nous sommes rendus capables de vivre justement.
Donc une vraie transformation.
C'est ça. La grâce, dans la vision wesleyenne, ce n'est pas juste un vernis légal qui vient cacher nos défauts. C'est un moteur interne qui transforme réellement notre comportement de tous les jours.
Donc, pour filer la métaphore du billet de loterie, Wesley dirait en gros « C'est génial que vos dettes soient annulées par ce billet gagnant, mais si vous ne changez pas votre comportement financier compulsif, si vous continuez à dilapider votre argent de manière hyper destructrice chaque jour, à quoi a servi ce don ?»
Exactement.
On ne peut pas juste encaisser le chèque spirituel et continuer à vivre n'importe comment.
Et c'est la faille de ce qu'on appelle souvent la grâce à bon marché. Et le docteur Oswalt souligne un problème de traduction dans nos Bibles qui alimente cette faille.
Ah ouais, hein ?
Lequel ?
Dans certaines versions, la promesse est traduite par « il vous justifiera » ou « il vous réhabilitera ». Le problème, c'est que ça met tout le poids sur le soulagement légal. On perd l'attente d'une vie qui est réellement transformée.
C'est dommage ?
Oui.
Et d'ailleurs, si l'on relie cela au contexte plus large de notre société contemporaine, Oswalt cite des recherches de George Barna qui sont assez troublantes.
Qu'est-ce qu'elles disent, ces recherches ?
Les statistiques montrent qu'aujourd'hui, sur de très nombreux critères éthiques ou comportementaux, il n'y a parfois aucune différence mesurable entre la vie d'une personne qui se dit croyante et celle d'une personne qui ne l'est pas.
C'est un vrai constat d'échec de cette soi-disant justice, du coup. Mais ça pose un problème pratique majeur.
Lequel ?
Si on doit changer sa façon de vivre pour expérimenter ce shalom, comment un peuple qui est complètement brisé, déprimé et exilé à Babylone peut-il trouver la force de le faire ? Ils n'ont pas les ressources pour changer.
C'est vrai, ils sont à sec.
C'est là, je suppose, que le fameux chapitre 55 d'Ésaïe intervient, avec sa solution totalement contre-intuitive, l'invitation à venir acheter sans argent.
Cette invitation, c'est un vrai chef-d'œuvre de l'absurde sur le plan économique. Le texte dit « Venez, achetez de l'eau, du vin et du lait sans argent. »
Sans argent.
Pour des exilés appauvris, c'est l'offre de survie ultime. L'eau représente la vie brute, le vin la joie, le lait la nutrition abondante. Dieu offre littéralement les éléments constitutifs de l'existence à des gens qui sont en faillite totale.
Mais il ne s'arrête pas aux boissons, si je me souviens bien.
Non.
L'analyse mentionne que Dieu veut partager avec eux sa gloire. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mot « gloire », pour nous, ça évoque les tapis rouges, les influenceurs, les paillettes. C'est hyper vide. C'est hyper éloigné du texte biblique, non ?
Totalement. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu pour la gloire, c'est le « kavod ». Et ce mot, ben, il ne brille pas du tout. Il pèse.
Il pèse ?
Oui, il est lié à l'idée de poids, de solidité, de réalité. Frapper la gloire de Dieu, c'est comme foncer la tête la première dans un mur de briques pleines.
Ouf.
Contrairement à nos vies humaines, qui sont très souvent qualifiées de souffle ou de vapeur dans les textes anciens, la gloire, c'est ce qui est incontestablement réel. L'invitation de Dieu, c'est donc de quitter l'illusion, le vide, pour s'ancrer dans cette réalité fondamentale.
Mais tout le monde n'accepte pas cette invitation, malheureusement. Le docteur Oswalt met vachement en garde contre ce qu'il appelle la comédie spirituelle, ou le théâtre religieux.
Oui. C'est un piège redoutable.
Et il dit une chose super frappante. Il dit que le lieu le plus dangereux pour la foi, c'est pas le bar du coin de la rue, c'est le séminaire de théologie. Je trouve ça hyper provocateur.
C'est provocateur, mais c'est tellement logique quand on comprend le mécanisme. Dans un cadre très religieux ou académique, le grand danger, c'est d'apprendre à parler de Dieu avec une virtuosité incroyable.
Ouais, de connaître tous les beaux mots, quoi.
De maîtriser tout le vocabulaire, oui, tout en arrêtant complètement de parler à Dieu. L'analyse intellectuelle finit par remplacer la relation intime.
Ah, je vois.
On étudie le fameux mur de briques, on en mesure les dimensions au millimètre près, on écrit des thèses dessus, mais on refuse catégoriquement de s'y adosser soi-même. Et c'est ça la comédie spirituelle.
Et le temps pour s'y adosser, il n'est pas infini. Le texte d'Ésaïe dit clairement « cherchez-le pendant qu'il se trouve ». Il y a une notion d'urgence, presque comme s'il y avait une date d'expiration.
Absolument.
Les sources citent l'histoire d'Aaron Burr au XVIIIe siècle pour illustrer ça. Burr faisait ses études à Princeton, et à ce moment-là, il y a eu un gros réveil spirituel sur le campus.
Oui, ces fameux mouvements d'effervescence collective.
C'est ça, des moments intenses où des groupes entiers ressentaient le besoin soudain de changer de vie. Burr, il avait environ 17 ans à l'époque, et il a ressenti cet appel très profondément. Mais il a consciemment dit non.
Il a refusé.
Il a même prié pour qu'on le laisse tranquille. Et selon l'histoire rapportée par mon source, il n'a plus jamais, au grand jamais, ressenti la moindre conviction spirituelle de toute sa vie.
Et cette histoire, elle illustre une loi spirituelle et psychologique implacable. Ce n'est pas que l'offre a été retirée par rancune divine. Pas du tout.
C'est l'analogie du récepteur radio. C'est vraiment ma partie préférée de toute l'analyse.
Vas-y, explique-nous.
En fait, imagine que cette grâce, cet esprit, fonctionne comme des ondes radio qui nous traversent tous, en permanence. La musique joue sans arrêt, 24 heures sur 24.
D'accord.
Mais si on rejette l'invitation avec cynisme, tu vois, si on se moque de cette petite voix intérieure et qu'on exige le silence ?
On ne coupe pas l'émetteur. L'émetteur continue de diffuser la musique. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un gros marteau et on fracasse notre propre récepteur radio interne.
C'est ça. On détruit physiquement notre propre capacité à capter la fréquence.
C'est une image terrifiante en un sens.
C'est carrément glaçant. Hein.
Et le docteur Oswalt partage une autre anecdote, tirée de sa propre connaissance pour appuyer ça. En 1951, au North Park College, un mouvement assez similaire traversait le campus.
Comme à Princeton ?
Oui. Des étudiants étaient bouleversés, transformés. Et un jeune homme qui était fils de pasteur, et donc très familier avec la religion, a décidé de façon froide qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Il a fermé la porte.
Aïe.
Des années plus tard, il a confié à Oswalt qu'il réalisait avec beaucoup d'amertume avoir laissé passer la seule véritable opportunité de sa vie. Le récepteur s'est éteint.
Waouh !
Nos cœurs s'endurcissent, tu vois, tant sur le plan neurologique que spirituel, quand nous rejetons la réalité pour nous accrocher à nos propres illusions de contrôle.
Ce qui amène quand même une question assez évidente pour l'audience, pourquoi on résiste à ce point en fait ?
C'est le cœur du problème.
Si on nous offre du vin, du lait, une dette gigantesque annulée, pourquoi l'humain préfère-t-il prendre un marteau et fracasser la radio plutôt que d'écouter la belle musique ?
Parce que la grâce pure, c'est l'insulte ultime à notre orgueil d'être humain.
Ah ouais, tu crois ?
Oui. Ésaïe 55 déclare « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». La logique humaine, elle est profondément transactionnelle. On fait un truc, on reçoit un truc. Nous voulons avoir le mérite de ce que nous possédons.
C'est clair. On veut mériter notre salaire.
Exactement. Oswalt mentionne même que des cultures avec une très forte éthique de travail, comme les méthodistes ou les mennonites, tombent souvent dans ce piège.
Ils veulent bosser dur pour l'obtenir.
Ils veulent mériter leur salut, prouver qu'ils en sont dignes. Or, accepter qu'on est en faillite totale, qu'on n'a pas un sou en poche pour payer, et devoir recevoir l'aumône de la grâce, c'est terrifiant pour l'ego.
Mais pour ceux qui laissent la radio allumée, le résultat, il est inévitable. Les sources comparent l'efficacité de cette parole au cycle naturel de la pluie et de la neige.
C'est une très belle image biblique.
Ouais, l'eau descend du ciel, elle s'infiltre dans la terre et ça finit, mais vraiment toujours, par germer. La mécanique de la grâce, elle ne dépend pas de la qualité du sol, mais de la puissance de l'eau.
C'est tout à fait ça.
Et l'exemple de Louise Imperini, détaillé dans nos sources, franchement, il est époustouflant pour comprendre comment cela opère concrètement.
L'histoire de Zamperini, qui a été popularisée par le célèbre livre et film Unbroken, c'est vraiment le cas d'étude parfait d'un récepteur brisé qui est soudainement, miraculeusement réparé.
Ouais, coureur olympique en 1936, puis prisonnier de guerre, atrocement torturé par les Japonais.
C'est ça. Et quand il revient aux États-Unis, il est détruit de l'intérieur. Son syndrome de stress post-traumatique ne se résume pas à quelques cauchemars. Hein.
C'est hyper violent.
Très violent. Il essaye littéralement d'étrangler sa femme en dormant. Il sombre complètement dans l'alcoolisme. Sa vie est un enfer éveillé. Il est l'incarnation même de cette stérilité, de ce désespoir absolu dont on parlait tout à l'heure avec les exilés de Babylone.
Il n'avait plus rien.
Rien. Et rien de ce qu'il pouvait faire par lui-même ne pouvait le réparer.
Et puis, en 1949, sa femme le traîne presque de force à une réunion du célèbre prédicateur Billy Graham, sous une grande tente. Et c'est là que la fameuse pluie tombe.
Exactement.
Et c'est pas l'ambiance ou la musique qui l'a guéri de son stress post-traumatique. C'est vraiment d'entendre que ce Dieu, ce Seigneur des armées, lui offrait cette grâce sans qu'il ait besoin de nettoyer sa propre vie en ruine au préalable.
C'est le don gratuit.
Et la transformation, ce qui est dingue, c'est qu'elle n'a pas été progressive du tout. Elle a été instantanée. Les cauchemars ont cessé le soir même.
Parce que la grâce a complètement court-circuité la logique transactionnelle qui le maintenait prisonnier de sa culpabilité et de son trauma.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quel est l'objectif final de toute cette opération cosmique, de ce plan de sauvetage divin ? Pourquoi Dieu ferait-il ça, au juste ?
C'est la grande question, en effet.
Le texte nous dit que des vies restaurées comme celle de Louise Amperini, elles deviennent, je cite, « le signe éternel de Dieu ». C'est ce qu'on appelle en yiddish le « chutzpa », l'audace absolue.
C'est un sacré pari.
Mais carrément, le créateur de l'univers, qui est censé être parfait, décide de parier sa propre réputation éternelle sur des êtres humains faillibles et brisés comme nous. Il dit à l'univers « Ma preuve que je suis réel, c'est ce que je viens de faire de cette personne ».
Cela soulève une perspective assez vertigineuse pour ceux qui nous écoutent. La divinité, dans ce texte, ne se prouve pas par des éclairs, des tonnerres ou des miracles destructeurs.
Non.
Elle se prouve par la capacité inouïe du Hesed, de cet amour inébranlable à transformer des champs de ruines humains en architecture grandiose de saphir et de rubis. La preuve de la réalité de Dieu, c'est le shalom vécu, expérimenté par des gens qui, logiquement, auraient dû être détruits.
Quel parcours à travers ces chapitres ! On est passé de l'angoisse froide d'une salle d'attente à une invitation super vibrante. On a vu que la colère divine n'était au final que le sursaut d'un parent terrifié, masquant un amour aux racines matricielles.
Exactement.
On a aussi compris que la justice n'était pas juste un petit coup de tampon légal, mais un vrai moteur de changement de vie. Et que refuser ce cadeau, refuser cette grâce, ça revenait à prendre un marteau et à fracasser sa propre capacité à percevoir la réalité.
Et on est bien loin d'une simple analyse théorique ou académique, là. C'est vraiment un appel à l'introspection face à notre propre orgueil.
Mais totalement. Cela pousse à se poser les vraies questions. On peut légitimement se demander, tous autant qu'on est, quel est l'état de ce récepteur radio en chacun de nous ?
Est-il encore intact ?
Voilà. Sommes-nous en train de capter la fréquence ? Ou est-ce qu'on essaye encore, de manière un peu pathétique, d'acheter notre propre sauvetage avec de la fausse monnaie, alors que tout nous est offert gratuitement ?
Et pour clore cette réflexion, imaginons-nous juste un instant projetés dans notre réalité contemporaine, au milieu de toute notre hyperconnexion urbaine.
Vas-y, je te suis.
Si la gloire, ce kavod dont on parlait dans les textes anciens, ça représente la brique, le poids, la réalité fondamentale, comment le fait de s'y adosser, de s'y appuyer, pourrait-il être la solution inattendue à la crise massive de santé mentale qu'on vit actuellement ?
Oh, c'est hyper intéressant comme angle.
Dans une culture numérique qui glorifie l'éphémère, l'anxiogène et le monde virtuel, choisir de s'ancrer dans ce qui est solide, selon Ésaïe, ça pourrait bien être l'acte de rébellion et même de guérison le plus urgent de notre siècle.
Une perspective redoutablement moderne pour un texte qui est vieux de plusieurs millénaires. S'ancrer dans le solide, le réel, pour ne pas être balayé par le virtuel. Merci d'avoir exploré ces sources avec nous aujourd'hui. L'invitation est lancée, l'analyse est posée, à chacun de voir s'il souhaite garder son billet de loterie au fond de sa poche ou enfin franchir la porte ouverte.